à Montpellier City.
Un groupe de jeunes d'élite a infiltré le musée Fabre.
Pendant 4 jours.
Entre dessins,
photographies
et radio,
ils ont des choses à dire.
Et ils vont vous les raconter.
RJF.
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 La radio des jeunes au musée Fabre.
RJF.
RJF.
The new radio.
La radio des jeunes au musée Fabre.
RJF.
La radio des jeunes au musée Fabre. Musée Fabre.
Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour notre émission unique et exceptionnelle au fin fond du musée Fabre. Nous vous accueillons dans ce lieu magnifique pour une expérience extraordinaire en notre compagnie. Sur ce plateau, nous avons Adèle, Sarah, Célia et moi, Léa.
C'est la première fois pour certains d'entre nous d'animer une émission en public. Nous espérons que nous allons passer un bon moment tous ensemble.
C'est un peu impressionnant de se retrouver entre ces murs, entourés de toutes ces œuvres qui ont traversé les siècles. Mais en 4 jours, on s'est un peu approprié les lieux, non ? Faut dire qu'on y a été aidé par un projet un peu particulier.
Oui, un projet sacrément ambitieux, car on s'est retrouvés tous les 9, sachant qu'on ne se connaissait pas avant, pour créer à la fois une œuvre visuelle et une émission de radio.
Bon, trêve de bavardage, parce qu'on a pas mal de choses à vous faire entendre. Et on va commencer par écouter Moïse et Chiara, qui nous parlent de la découverte du musée et de notre projet.
Moi, j'étais jamais allé dans un musée de ma vie. J'ai imaginé que c'était comme ce que j'avais vu à la télé. Quelque chose de très grand, avec plein de sculptures. Et en vrai, le musée Fabre, c'est grand. Rien que l'entrée, j'étais impressionné par le bâtiment, et aussi par la sécurité. Et c'est normal, parce qu'il y a des œuvres très vieilles, il faut pas les abîmer. Je pensais qu'il y aurait plus de sculptures, mais j'ai vu plus de peintures. Au début, ça me faisait pas trop d'effet de visiter le musée.
C'est un ange, ouais. Donc l'ange déchu.
Mais quand j'ai vu l'œuvre de l'ange déchu, là j'ai changé de point de vue.
Pourquoi déchu ? Qu'est-ce que ça veut dire déchu ?
À peu près, relevé de ses fonctions.
Oui, mais oui, quelque part. Mais quand on est relevé de ses fonctions, on est viré. Mais il y a une dimension morale dans la notion de déchéance. Et en l'occurrence, que les anges sont encore dans le ciel, lui il est sur la terre. Donc il est tombé, il y a cette histoire, cette idée d'être en haut et de se retrouver en bas.
Je l'ai trouvée belle. Et en plus, je la connaissais des réseaux sociaux. Mais la voir en vrai, c'est pas pareil. Là, c'est la vraie œuvre, avec ses vraies couleurs. Sur les réseaux, il y a des gens qui mettent des filtres. C'est pas la même chose qu'en vrai. Je suis content d'avoir découvert le musée Fabre. Si vous ne l'avez pas encore visité, je vous le conseille.
Ces quelques jours au musée ont été pleins de découvertes. Tout d'abord, dès le premier jour, on est arrivé dans un environnement inconnu, avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Malgré peut-être les premiers instants de gêne, on a réussi à créer une ambiance où on s'entend bien rapidement. Durant la réalisation du projet, on a découvert aussi un tas de choses.
On va parler pas mal de la notion d'émotion. Ok ? Donc pour vous, les émotions, ce serait quoi ? Si vous deviez donner une définition du mot, ça vous évoquerait quoi, par exemple ?
Ce que tu ressens.
Ce qu'on ressent, et j'imagine que la plupart d'entre nous partagent cette définition.
Que ce soit de nouvelles techniques de dessin et de photographie, ou même l'enregistrement du son pour la radio, ça a été l'occasion de découvrir plein de médias. J'ai trouvé que pendant les ateliers, il y avait vraiment une bonne ambiance, comme le moment où on tentait de reproduire un point de vue depuis la cour. Alors là, on doit reproduire un point de vue qu'on choisit dans la cour. Donc ça peut être l'arbre, la statue ou peu importe. Et en fait, le but, c'est de pas lâcher son crayon de la feuille, c'est-à-dire de le laisser reposer dessus pendant tout le dessin. Ça m'a permis de m'améliorer. J'ai aimé redécouvrir la photo et les différentes façons d'en faire. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Bref, j'ai beaucoup aimé ce projet. Et surtout suivre chaque étape de sa réalisation. Pour préparer l'émission de radio, ce qui était bien, c'est qu'on écoutait tous les matins ce qu'on avait enregistré la veille. Et ça, c'était vraiment motivant.
Merci à tous les deux pour vos témoignages. Nous allons maintenant écouter Sarah, qui va nous présenter un atelier sur les ombres et les lumières.
Dès que nous sommes arrivés, on était tous devant une table lumineuse. Je ne suis pas habituée à ce genre d'outils et en plus, on devait faire une activité où il fallait, avec une craie graphite et une craie grasse, faire les ombres par rapport à une œuvre qui est exposée dans le musée. Au début, il était assez difficile de manier la craie graphite, mais plus je l'utilisais, plus je m'adaptais à celle-ci. J'ai adoré faire cette activité, même si j'avais peur de faire une erreur que je ne pouvais pas changer. J'aurais aimé continuer ce dessin, car en vrai, on a toujours quelque chose à ajouter.
Si je devais faire mon portrait, il y aurait un ballon et des cages.
Il y aurait une peluche, une guitare et plein de matériel de dessin.
Si je devais faire mon portrait,
il y aurait
une Red Bull et au moins une référence à Hello Kitty.
Il y aurait une statue en bronze parce que je suis bronzé.
Un chapeau de pirate, une chauve-souris avec le fond de la nuit étoilée de Van Gogh.
Si je devais faire mon portrait, il y aurait forcément du mouvement.
Il y aurait un clair-obscur comme dans les tableaux de Caravage.
Si je devais faire mon portrait,
il y aurait du rose en fond, des paillettes et un tiramisu.
Il y aurait un rat parce que j'aime bien me faufiler partout.
Un chat, un micro et des fleurs partout.
Une tête de chat et un hamster vert.
Moi, au centre, des chats, ma mère et plein de caméras braquées sur moi parce que je suis une star.
Merci Sarah pour ces précisions sur cet atelier. Durant cette semaine, nous avons aussi eu la chance de découvrir une technique de photo très particulière. Et c'est Adèle qui nous en parle maintenant.
Cette semaine, on a travaillé la photo avec Michel.
Ce que je vais vous faire faire pendant la semaine, on va faire plein de trucs. On va commencer par du dessin ce matin pour y aller tranquille. Mais surtout, le truc principal, c'est que je vais vous montrer comment on fait de la photo sans appareil numérique. Donc on va faire de la photo un peu à l'ancienne, et vraiment très à l'ancienne parce que en fait on va même pas passer par un appareil photo classique.
C'est fascinant ce qu'on peut faire sans caméra et sans téléphone. Moi je savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Je vais vous expliquer comment on a fait. Il faut se mettre dans une chambre noire et utiliser un sténopé, c'est comme une petite boîte en bois. Ensuite, il faut un post-it en plastique, mettre un cache solaire sur la boîte, parce qu'il ne faut surtout pas laisser entrer la lumière. Il faut faire attention à ne pas mettre son doigt sur la boîte, par exemple. Quand on a pris la photo, elle doit être plongée dans 4 barquettes de liquides chimiques différents. Attention aux projections dans les yeux. Et là, petit à petit, la photo apparaît. C'est comme de la magie. Et ça change. Parce qu'aujourd'hui, on touche presque jamais les photos. Elles restent sur un écran. On les prend juste en cliquant avec notre téléphone. Alors qu'avec un sténopé, la photo est réelle. Et franchement, je suis content d'avoir appris ça.
Pour continuer dans notre découverte, nous avons été accompagnés par Michel, avec qui nous avons pu échanger sur l'histoire des œuvres par exemple. C'est Célia qui va nous en parler maintenant.
Durant la première journée, Michel nous a directement contextualisé avec l'histoire de l'art. Comparé à mes cours, j'ai pu échanger en direct avec et dialoguer. J'ai pu approfondir mes connaissances de cours grâce à lui et son parcours plus développé. Pour chaque tableau présenté, on pouvait se remémorer ensemble ce qu'on avait appris comme information sur l'histoire du tableau. Parler du sens de l'œuvre a été également très intéressant. J'ai été contente de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur avec une personne compétente et tout aussi intéressée par moi que moi sur le sujet.
Merci Célia pour ton témoignage. On a visité le musée et au détour d'un couloir, on a croisé des professionnels qui restauraient des œuvres. On a eu la chance d'interviewer une restauratrice.
Alors, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Marion Bosque, je suis restauratrice de tableaux et je travaille avec le musée Fabre comme restauratrice indépendante pour assurer la veille sanitaire des tableaux de la collection du musée, c'est-à-dire vérifier que les tableaux sont en bon état et regarder s'il y a besoin de faire des choses pour qu'ils restent en bon état.
Pouvez-vous me dire quelle œuvre vous êtes en train de faire ?
On est en train de travailler sur des œuvres du 19e siècle qui sont dans les salles de la Croix du musée Fabre au premier étage. On a regardé à peu près une cinquantaine d'œuvres qui sont réparties sur 3 ou 4 salles, dont des œuvres de Corot, Delacroix, Cabanel, sur lesquelles je suis en train de travailler. Et certaines d'entre elles sont un petit peu abîmées, mais elles n'ont pas besoin de traitement très long à faire. C'est pour ça que je fais ce petit travail en salle, là où les tableaux sont accrochés, et devant le public pour leur montrer ce qu'on est en train de faire.
Pour quelles raisons vous restaurez les œuvres ?
On restaure des œuvres d'art quand on découvre qu'il y a des problèmes qui, si on ne fait rien, vont s'aggraver. Ça veut dire, par exemple, de la peinture qui va tomber et ça va créer des trous visuellement. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, recoller des endroits où la peinture ne tient pas très bien. Ça peut être des accidents. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure du mur et ça s'est déchiré, ou bien un bout de bois qui s'est ouvert en deux. On a besoin de recoller ou un petit peu solidifier l'étoile. Ça peut être des inondations, des incendies, des guerres. Il y a plein de cas de figure dans lesquels on a besoin d'intervenir pour les restaurations.
Combien de temps environ prend les restaurations ?
Chaque restauration prend un temps différent. On n'a pas un temps fixe parce que c'est un peu comme les docteurs. Ils ne vont pas passer le même temps sur les patients. Nous, on est les docteurs des œuvres d'art. Et chaque œuvre d'art est différente, comme chaque personne est différente. Donc, on va d'abord essayer de comprendre quelles sont les choses qui ont besoin d'être traitées. Et après, on va tester les solutions qui marchent. Parce qu'on ne sait pas au début qu'est-ce qui va bien marcher ou pas. On a des idées, mais on fait des petits essais sur les bords. Et quand ça marche, on fait ce qui a besoin d'être fait, mais on ne sait pas le temps que ça va nous prendre.
C'est quoi l'œuvre la plus ancienne qui vous est arrivée de restaurer ?
C'est des peintures murales en Égypte, en plein air, qui avaient 4000 ans.
Ah ouais, quand même. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question. Je voudrais savoir, à partir de quel âge on ne peut plus restaurer une œuvre ?
On peut toujours restaurer une œuvre d'art. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas très bien encore. Donc des fois, on n'a pas des solutions pratiques et chimiques, scientifiques, assez évoluées pour aujourd'hui. Et donc on se dit, on va attendre qu'il y ait des progrès scientifiques qui soient faits, et on le fera plus tard. Comme on peut faire en archéologie, quand on ne peut pas bien restaurer des fouilles archéologiques, on les remet dans la terre, on les réenfouit. Et on attend d'avoir des bonnes solutions pour pouvoir éviter qu'il y ait des problèmes futurs qui se produisent.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci pour vos bonnes questions. C'était très intéressant de discuter avec vous.
RJF.
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 La radio des jeunes au musée Fabre.
RJF.
RJF.
The new radio.
La radio des jeunes au musée Fabre.
RJF.
La radio des jeunes au musée Fabre.
Nous avons maintenant la chance d'accueillir sur le plateau Ewan, Moïse et notre invité Mathieu Fantoni. Merci à vous d'être venu.
Merci.
Pouvez-vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Fantoni, conservateur des collections d'art ancien du musée Fabre à Montpellier. Donc, je m'occupe des peintures, des sculptures, des dessins et des arts décoratifs du plus ancien de la collection jusqu'au début du 19e siècle.
Merci à vous. Nous vous proposons maintenant d'écouter Ewan qui nous parle d'un tableau qui l'a marqué.
J'avais envie de vous parler d'un tableau. Ces femmes d'Alger dans leur intérieur de Delacroix. Ce tableau, c'est une mise en scène. L'artiste a pris des modèles et a imaginé le fond après avoir visité un harem à Alger en compagnie d'un corsaire turc. Ce qui me touche dans ce tableau, c'est la composition. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est que le peintre pense tout savoir de ces femmes.
Donc ça, il a vu quelque chose comme ça, même s'il l'a réinventé, il l'a repris après. Par contre, ça, il n'a jamais vu ça. Ça, c'est... Il a fait poser des gens, et ensuite, il a retravaillé, il a repris le dessin qu'il avait fait, il a retravaillé pour leur donner ce côté un peu qui fait fantasmer l'homme blanc du 19e siècle.
Moi, je trouve ça prétentieux de sa part de penser que de sa position d'homme occidental, il puisse transmettre ce que ces femmes ressentent et endurent. Je ne pense pas que ces femmes attendaient avec le sourire tranquillement assise qu'un homme arrive. Je pense que de sa position d'artiste, il aurait pu montrer la réalité qui est difficile. Malgré tout, j'aime ce tableau car il montre une réalité difficile pour cette époque.
Merci Ewan. Avez-vous une réaction à nous partager ?
Je trouve ça vraiment intéressant. Les œuvres, elles ont un sens pour l'artiste qui va les faire à son époque. Et puis ensuite, on peut toujours mettre à distance, critiquer. Le musée est un lieu où justement on vient débattre des choses, on vient se rencontrer et partager des informations ou des émotions, des ressentis sur lesquels après on peut bâtir quelque chose de commun. Donc c'est très intéressant. Effectivement, l'œuvre de Delacroix, elle date du 19e siècle. Donc elle a intégré tous les biais culturels de son époque. C'est une œuvre de son temps.
Merci pour votre réponse. J'ai une autre question. Quels sont les aléas ou les difficultés dans votre métier ?
Il y en a de tous ordres. Principalement, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la santé des œuvres. En tout cas, en tant que conservateur, nous, on a la mission de rendre les œuvres disponibles au public, car elles vous appartiennent. Donc, on est très soucieux de pouvoir les conserver au mieux, les présenter au mieux, les exposer dans les meilleures conditions, ouvrir au maximum le musée. Voilà, donc c'est ce qui parfois peut créer des inquiétudes sur l'état de conservation, lancer des travaux, mener des campagnes de recherche, d'études pour proposer des expositions de qualité qui sont à la hauteur de vos attentes.
Merci à vous et à vos réponses. Nous vous proposons maintenant d'écouter l'interview de Marine Posier qui travaille au service des expositions du musée.
Bonjour, vous travaillez au musée Fabre. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît.
Donc je m'appelle Marine Posier, ça fait une quinzaine d'années que je travaille au musée Fabre et je suis responsable du service des expositions et de la valorisation des collections du musée.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Alors moi ce qui me plaît dans ce métier c'est que déjà on ne s'ennuie jamais. Chaque projet reste quand même fondamentalement différent parce que les thématiques sont différentes, donc déjà on apprend toujours.
Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer durant votre métier ?
C'est un métier qui demande beaucoup de coordination. En fait, une exposition, elle ne se monte pas seule. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui doivent intervenir à beaucoup de moments très précis. La difficulté qu'on peut avoir à des moments, c'est que tout s'enchaîne en gérant les aléas, parce qu'il y en a toujours, des retards, des choses qu'on ne trouve pas, des choses qui tardent, voilà. Tout en sachant que, même si j'aime pas ce mot forcément pour les expositions, on travaille dans de l'événementiel. On a toujours une date d'ouverture de l'exposition où on invite le public. Et ça, on ne peut pas la bouger. Et ça, c'est aussi le rôle de mon poste, c'est d'être un petit peu la garante du maintien du planning général.
Quelles expositions avez-vous eu le plus de plaisir à organiser ?
Alors, il y en a eu énormément. Mon premier gros souvenir au musée Fabre, donc ça remonte, mais c'était l'exposition Caravage. Alors, à cette époque, je ne l'organisais pas parce que je n'ai pas attaqué au musée avec ce poste. Hein. J'ai fait différents postes au musée, mais quand on venait d'Histoire de l'art, avoir la chance d'ouvrir une caisse et de découvrir un Caravage, c'était quand même un souvenir assez marquant. C'était mon premier vrai gros souvenir au musée Fabre qui m'a marqué. Et après, je parlerai de l'exposition Jean Hugo. C'était de vrais défis à relever et tout le monde avait vraiment joué le jeu. Et quand il y a une belle ambiance aussi, parce qu'on est une équipe, c'est toujours de bons moments.
Quels sont les moments qui vous ont causé le plus de stress et pourquoi ?
Par exemple, l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu un événement sur l'exposition Soulage qui est que l'éditeur du catalogue a fait faillite. C'est la vie, c'est comme ça, c'était terrible pour cette entreprise, mais c'était aussi terrible pour le musée parce que on venait d'envoyer en impression le catalogue, l'exposition ouvrait dans 4 semaines, et là c'était vraiment pour moi un grand moment de stress parce que c'était inédit. Les situations, les problèmes, au bout de 15 ans, on n'en a pas fait le tour, mais on en a déjà vécu plein, on a trouvé des solutions, il y a des choses qu'on sait bien faire. Ce cas de figure, il était vraiment inédit pour moi. On a réussi, malgré tout ça, à avoir quelques exemplaires du catalogue pour le vernissage. On avait 30 exemplaires, je me souviens, et on a reçu le reste 2 semaines après l'ouverture. Mais ça, ça a été vraiment, c'était le dernier gros moment de stress que j'ai eu au travail, c'était ça, et c'était l'année dernière.
Et du coup, pour finir, quelle est votre œuvre préférée au musée Fabre ?
C'est une question qui est très compliquée, d'autant plus que moi, quand j'ai encore une fois commencé au musée, j'étais pas aux expositions, je m'occupais du récollement. Le récollement, c'est aller vérifier l'état de chaque œuvre du musée. Et donc, du coup, je devais, en résumé, un petit peu pointer chaque œuvre. Et moi, les 2 premières années de ma vie au musée, je les ai passées toute seule, tranquille, à regarder chaque tableau. Et ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'en fait, je trouve quelque chose dans toutes les œuvres, même les œuvres que je n'aime pas, j'y trouve quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dire quelle œuvre au musée me plaît le plus. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de la journée, ça dépend de... Du coup, en fait, je changerais d'avis tous les jours si on me posait la question.
Merci pour ce petit moment passé avec nous et de votre temps.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Nous accueillons maintenant Faïjan et Kera sur le plateau, qui ont également des questions à vous poser.
Bonjour. Comme on l'a entendu dans l'interview, y a-t-il des choses stressantes aussi dans votre métier ?
Oui, bon, au quotidien, on peut avoir des sujets un peu stressants. Quand on travaille sur une exposition, on doit négocier des prêts. Donc, on doit parler avec d'autres collègues et donc essayer d'obtenir pendant un temps court, mais voilà, qui peut être déterminant pour un autre musée, une œuvre. Donc, on n'a parfois pas de réponse ou on attend un peu dans l'anxiété. Par chance, on a souvent quand même des bonnes réponses, des réponses positives. Mais voilà, ça peut être sujet de stress aussi quand on travaille sur des acquisitions où il faut travailler très rapidement parce qu'on peut participer à des ventes aux enchères. Et là, on a quelques jours pour monter un dossier très complexe, trouver des financements, se présenter à la vente et voilà, réussir le jour J à emporter les enchères. Donc ça peut être des moments de stress, mais c'est généralement toujours du stress extrêmement stimulant qui nous construit et qui, voilà, qui nous anime et nous alimente.
Merci à vous. On a aussi réfléchi aux émotions à notre façon.
Si j'étais une émotion, je serais...
Si j'étais une émotion, je serais la nostalgie, car elle peut être joyeuse comme triste. Elle met le sourire et est universelle.
Si j'étais une émotion, je serais la méfiance, parce que je me méfie généralement des autres.
Si j'étais une émotion, je serais la tristesse, car elle fait une grande partie dans ma vie.
Si j'étais une émotion, ce serait plutôt la joie, parce que c'est plutôt ma nature.
Si j'étais une émotion, je serais...
Je serais la surprise.
Je serais la surprise de découvrir ne serait-ce que de voir que le pain est solide et l'eau liquide.
Parce que j'aime découvrir des choses.
La nostalgie, parce que j'ai tendance à vivre dans le passé.
Si j'étais une émotion...
Si j'étais une émotion, je serais...
La colère, parce que j'aime m'affirmer devant les autres et aimer qui je suis.
Le vice, parce que tout le monde me dit que j'ai du vice, alors que je suis juste réaliste et sarcastique.
Si j'étais une émotion, je serais le deuil, parce qu'il faut savoir dire au revoir aux choses qui nous déplaisent.
Si j'étais une émotion...
Je serais la joie, parce que j'aime m'habiller avec beaucoup de couleurs joyeuses.
Si j'étais une émotion, je serais...
Je serais...
Drôle, parce que j'aime bien rire. Ça marche, bien sûr.
En parlant d'émotions, il me semble, Léa, que tu veux nous en parler. Cette semaine, on a fait de la radio, mais aussi beaucoup d'art plastique. Et au début, j'avais vraiment peur parce que je ne suis pas trop douée de mes mains. Le premier jour, on a travaillé les ombres avec du graphite et des craies grasses, et je me suis sentie complètement perdue. Parce que je voyais tout le monde faire des choses super, et moi, je faisais des espèces de gribouillis et des pseudo-ombres qui, honnêtement, n'ombraient rien du tout. Quand on a dessiné dans la cour, je me suis sentie bizarrement apaisée et contente. Je me suis rendu compte que j'aimais dessiner, mais que je ne le faisais jamais car je voulais que ce soit joli, parfait, et surtout comme les autres, ce qui est quand même étrange puisque j'aime être différente et je crois bien que je le suis. Je crois aussi que je veux toujours être super douée à tout ce que je fais et je ne m'autorise pas souvent à faire des choses qui sont plus difficiles pour moi, comme dessiner ou peindre. Peut-être que je ne veux pas décevoir ce que j'aime. En y pensant, je me dis que si on s'autorisait à faire quelque chose parce que cela nous rend heureux, sans penser au fait que ce soit joli et esthétique, le monde serait rempli de gens zen qui se fichent du regard des autres. Mathieu Fantoni, avez-vous une réaction sur ce que vous venez d'entendre ?
C'est très très beau et très touchant et je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, souvent on s'interdit des choses parce qu'on a peur du regard des autres. Il y a énormément de pratiques artistiques qu'on peut faire avec très peu de moyens qu'on peut faire pour soi. Et voilà, si le musée peut faire naître ce genre de réaction, c'est merveilleux. En tout cas, c'est un lieu où on peut dessiner, on peut se poser tranquille. C'est un lieu silencieux et où justement on peut faire ses expériences, dialoguer avec des artistes qui ne sont plus là, mais qui ont fait le même cheminement. Il n'y a personne qui est né en sachant peindre parfaitement. Tout le monde a appris, tout le monde a cheminé, a fait des erreurs, qui d'ailleurs n'en sont pas, hein, c'est juste des expériences. Et donc, c'est très beau ce que vous avez dit.
Est-ce qu'il faut pratiquer une activité artistique pour faire votre métier ?
Pas du tout. Dans le temps, il y a longtemps, souvent les conservateurs étaient aussi artistes. Celui qui a fondé le musée était peintre, François-Xavier Fabre. Mais ce n'est pas du tout un prérequis. Je pense que c'est intéressant de comprendre les questions que se posent les artistes. Il y a des techniques très particulières. Ça peut permettre de comprendre aussi l'évolution des œuvres, leurs problèmes de conservation. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Peut-être que ce n'est pas un frein pour être conservateur.
Merci à vous. Nous écoutons maintenant le témoignage de Faïjan.
Avec ma famille, on a l'habitude d'aller régulièrement au musée. Quand on est en visite guidée, etc., le grand sujet, c'est la beauté spirituelle de l'œuvre. Machin qui met en valeur le chaos intérieur, bidule qui exprime la beauté même de l'âme. Là, on parle du coup de pinceau, celui qui est technique. Les proportions, la recherche du réalisme de la manière la plus étudiée. On parle du sommet social que représentait le modèle vivant pour les peintres. L'expression « échelle sociale » revient aussi et se signe littéralement. Les meilleurs peintres, ceux qui réussissaient le mieux, gagnaient en quelque sorte le droit de se mettre au plus proche du sujet. Les autres étaient placés au fond. Relayer au second plan, c'est vraiment l'expression la plus juste. C'était une manière de trier le bon grain. Charles-François Mathé le mit d'ailleurs sur toile en 1814 avec les élèves de l'atelier de David. Œuvre qui représente justement une séance de modèles vivants et où les dessinateurs sont placés sur plusieurs rangs. Plus le rang est près du modèle, plus il est restreint et semble illuminé. Plus il est éloigné, plus il est sombre. L'artiste François-Xavier Fabre, connu pour son musée, se trouvait être également un adepte de cette technique de modèle vivant qu'il jugeait comme étant la source de la représentation physique humaine.
Merci Faïjane. Pour finir, nous avons une dernière question à vous poser. Pouvez-vous nous raconter une anecdote dans votre métier ?
Anecdote récente, je vais réfléchir rapidement. Il y a eu un beau moment, puisqu'on parlait de Fabre, justement, on y revient toujours, hein, ces gestes fondateurs, ces gestes de générosité, de donation, comme celui qui a créé ce musée. Il y a quelques temps, sont passés en vente deux tableaux de Fabre, qui étaient des tableaux qu'on connaissait depuis un moment, qui ont appartenu à une personne qui avait beaucoup travaillé sur l'artiste, qui s'appelait Laure Pélissère. Et on a été en mesure de les acheter pour les intégrer à la collection. Et le fait de réunir ces œuvres, de les ramener finalement auprès d'autres œuvres faites par le même artiste, quelque part aussi d'accomplir et d'achever le travail de Laure Pélissère qui avait beaucoup fait pour ce musée, pour Fabre, c'était extrêmement touchant. Et de les voir maintenant sur le mur, de se dire qu'elles seront toujours là, voilà, parce qu'on a pu contribuer, parce qu'on était au bon endroit au bon moment, c'est extrêmement touchant. Et chaque jour, quand je les vois, je suis très heureux d'y être parvenu.
Merci pour toutes vos réponses.
Merci à vous.
RJF.
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 La radio des jeunes au musée Fabre.
C'était Adèle, Léa, Adèle, Feijane, Chiara, Moïse, Célia, Sarah et Ewan.
Merci Christelle pour ses plaques de carambar. Robin pour sa cool attitude. Et Audrey de la Maison des Jeunes pour tous, non, la Maison pour tous, Albert Camus, pour sa joie et sa voix cassée.
Merci Michel pour ses ateliers super, ses précieux conseils et son rire de Père Noël très contagieux. Merci aussi à Marion Boutelier et à toute l'équipe du musée pour nous avoir accueillis.
Merci à nos invités pour leurs réponses pertinentes.
Enfin, merci aux auditeurs et au public de nous avoir pour nous avoir écoutés aujourd'hui. Au revoir et bonne journée.